En ce 18 février, c'est la fête du bienheureux Frangelico. La plupart des auditeurs, j'imagine bien, vous connaissez Frangelico très bien, ce Dominicain qui a vécu au 15e siècle, un prêtre, à Florence, et qui est le patron des artistes. Frangelico a laissé une œuvre grandiose à laquelle se mêlent malheureusement des faux. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Mais ces grandes œuvres qu'il a peintes lui-même sont parmi les plus belles œuvres religieuses qui soient en Occident. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Son nom véritable, c'est Guidolino di Pietro. Et en religion, comme dominicain, on l'a appelé Giovanni da Fiesole. Fiesole, c'est un très beau village, il y a un très beau couvent dominicain près de Florence. Mais le principal couvent florentin, c'est bien San Marco, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art, tant par l'architecture très sobre et très simple, et par les fresques qui a peintes Fra Angelico, Fra Giovanni da Fiesole. On l'a appelé longtemps Il Beato, déjà, avant qu'il ne soit béatifié par Jean-Paul II en 1982. Mais on l'appelle toujours Frangelico, quoi. Il est né dans la région de la Toscane, c'est-à-dire non loin de Florence, vers 1400. On a souvent dit qu'il était né vers 1384-85. On se range depuis quelques années, après toutes les recherches, pour dire qu'il est né au tournant du siècle, donc vers 1400. Il est mort à Rome en 1455. C'est une vie plutôt courte, 55 environ. Et c'est donc un des maîtres de l'école dite florentine, l'école de peinture de Florence, qui est un des grands sommets de l'art sacré, et de l'art tout court. C'est l'un des plus profonds interprètes de ce qu'on pourrait appeler l'iconographie chrétienne. On parle souvent de l'iconographie de nos frères orientaux, comme on dit nos frères orthodoxes, mais il y a une iconographie chrétienne profonde, très riche et très belle. Et il atteint, lui, les sommets, hein, particulièrement dans ses fresques, puis les retables du couvent San Marco à Florence, que j'ai revu avec grand joie l'été dernier, où il était moine et prêtre. Puis il y a aussi la chapelle du pape Nicolas V au Vatican, qui était un de ses chefs-d'œuvre. Je vous rappelle donc qu'il est le patron de tous les artistes, et spécialement des peintres. Je vais vous donner un bref résumé de la chronologie. Mais avant ça, il faut vous dire que c'est le 3 octobre 1982 que le pape Jean-Paul II est, comme on dit en langage très ecclésiastique, motu proprio, c'est-à-dire, littéralement, comme l'explique très bien Mgr Cimichella dans un texte, littéralement, c'est de son propre mouvement, motu proprio, c'est-à-dire de sa pleine autorité que Jean-Paul II a proclamé, bienheureux, dans l'ordre des Dominicains, le grand artiste Frangelico. La première fête liturgique a été présidée par le pape lui-même, le 18 février 1984, je vous en parlerai tout à l'heure, dans l'église dominicaine de Sainte-Marie de la Minerve. Si vous allez visiter ça, il faut arriver avant 1h l'après-midi. Je crois qu'il ferme dans l'après-midi. C'est désagréable. C'est au cœur de la vieille Rome. Hein. Et c'est là qu'il l'a proclamé patron des artistes. Alors donc, il est né en 1400, comme je vous ai dit, à Bicchio in Mugello. On parle souvent du Mugello comme région. Oui, Florence. Il porte le nom de Guido, ou si vous voulez Guy, ou Guidolino, et son père se nomme Piero di Gino. Il n'y a pas de nom de famille, comme vous voyez. Ce sont des, comme on faisait ici, je me souviens que nous avions, quand j'étais enfant, une Amérindienne qui venait faire la cuisine chez moi, à Outremont. Elle s'appelait Catherine, mais c'était Catherine d'Augustin, je crois, qu'elle était fille d'un Indien qui s'appelait Augustin, et son père avait un autre nom, et ainsi, il n'avait pas de nom de famille, c'était au début des années 30, et nos ancêtres aussi, n'avaient pas de Nom de famille, peut-être vers 1400, très souvent, et même un peu plus tard. Vers l'âge de 17 ans, il travaille comme peintre et miniaturiste à Florence. Il fait partie des compagnons de Saint-Nicolas dans l'église du Carmel. Et environ 3 ans plus tard, il entre dans l'ordre des Dominicains, vers l'âge d'à peu près 20 ans. Dans le nouveau couvent, de stricte observance, car il y a eu une réforme. Les grands ordres ont toujours besoin de réformes parce qu'ils s'assoient, ils se couchent, on dirait, ils s'étendent sur leurs acquis, célèbrent les fêtes de leurs saints et cherchent peu à les imiter à un moment donné. Il faut les réformer et ça prend des réformateurs. Et alors, ça prend beaucoup de courage, j'imagine. Alors, il est donc dans le nouveau couvent de stricte observance de Saint-Dominique à Fiesole, près de Florence. Il prend le nom de frère Jean Giovanni. C'est saint Antonin qui est son prieur et son maître des novices. Il est ordonné prêtre en même temps que son frère Benedetto, qui est entré lui aussi. Il vit dans le même couvent que son frère. Sa sœur Francisca se marie, elle, à Florence. Et là, pendant 18 ans, il peint en particulier sa fameuse Annonciation. Qui ne connaît pas l'Annonciation de Frangelico? C'est tellement pur. C'est un de ses grands chefs-d'œuvre. Il peint aussi le couronnement pour l'église de son couvent, qui est un de ses grands, grands chefs-d'œuvre. Il est maître d'un atelier, fait des peintures pour d'autres églises. En 1438, donc, vers l'âge d'environ 38 ans, quoi, il peint les fresques de l'église et du couvent de Saint-Dominique de Cortone. Puis pendant les 6 années suivantes, il fait partie de la nouvelle communauté dominicaine de San Marco, ou Saint-Marc, si vous voulez, à Florence, dont le prieur est Saint-Antonin. Et c'est la période où il peint les célèbres fresques du cloître, de la salle du chapitre, des couloirs et des cellules du couvent. C'est de toute beauté, de toute beauté. On n'a pas idée de la grandeur des chefs-d'œuvre de ces fresques. C'est exceptionnel. Et alors, le pape Eugène IV, présent au couvent de Saint-Marc lors de l'inauguration, justement en 1443, a été tellement enthousiasmé par ses fresques, par ses œuvres de Frangelico, qu'il l'a fait venir à Rome. Il lui a confié en 1445 la mission de décorer justement un oratoire dans l'église Saint-Pierre et la chapelle du Saint-Sacrement au palais du Vatican. Cette chapelle, dit un auteur inconnu, était vraiment le paradis, dont les personnages étaient représentés avec la plus grande grâce et la plus grande honnêteté. Et pendant que Frangelico peignait dans l'église Saint-Pierre, c'est pas l'église actuelle, hein, c'est l'autre avant, et qu'il peignait aussi au palais du Vatican, bien le pape Eugène IV a eu tout le temps là, d'admirer non seulement les qualités de ce grand artiste, mais surtout, surtout, la piété de ce religieux. Son observance précise de la règle. Il a pu, le pape, estimer son esprit d'humilité aussi, puis d'oubli de soi. Et c'est pourquoi, lorsque ce pape a dû pourvoir en 1446 au siège de Florence, qui était devenu vacant, l'évêque était mort, il a proposé cette charge d'évêque, charge importante, à ce cher Frangelico. On dit « fra » comme « frère » parce que ce sont des frères prêcheurs. Ils portaient encore le titre de « frère ». On les appelle des « pères » maintenant, mais en France, ça recommence. Beaucoup de Dominicains préfèrent se faire appeler « frères » puisqu'ils sont des frères prêcheurs, peu importe s'ils sont prêtres ou non. Ils se mettent à l'égalité avec tous les frères convers, comme on disait autrefois. Et alors, Frangelico repousse avec humilité cette charge. Il s'estime indigne. Puis il persuade le pape de confier cette dignité au frère Antonin Pirotti, comme étant l'homme le plus apte par la vertu puis la doctrine à administrer ce siège, ce sera saint Antonin. De même, le pape Nicolas V, successeur d'Eugène IV, lui aussi un homme de culture, un grand humaniste, a eu la plus haute opinion du frère Giovanni da Fiesole Frangelico. En effet, dit-on, dans des vies des gens illustres de l'ordre des frères fraîcheurs publiés à Bologne en 1517, il est écrit « En effet, il estima et vénéra un tel homme en raison de l'intégrité de sa vie et de la pureté de ses mœurs. » ce qui n'était pas très très répandu parce que c'était une époque très sombre de l'Église. Et c'est pourquoi le pape Nicolas V lui a demandé en 1447 de décorer de fresques sa chapelle privée. C'est ce que fait Fra Giovanni en peignant les épisodes de la vie de Saint-Étienne et de Saint-Laurent, oui, en excédant au goût du pape là, pour l'humanisme. Mais il s'est écarté en rien de son art, qui ressemblait à une prière peinte, car c'était un homme qui priait toujours avant de peindre. Et plus tard, en 1449, il a peint le studio du même pape. Il est élu prieur, finalement, Fra Angelico, en 1450, il est élu prieur de Saint-Dominique de Fiesole, pour succéder à son frère Benedetto, qui est mort. Il n'accepte pas le travail qu'on lui demande pour la cathédrale de Prato. Il termine quelques peintures, dans la mesure de ses moyens, parce qu'il est très occupé, qui lui avait été commandé auparavant. Puis là, de 1453 à 1455, il réside à Rome au couvent dominicain de la Minerve, le grand couvent dominicain de la Minerve à Rome. Il faut aller là, hein? Et c'est là qu'il meurt, le 18 février 1455, et il était enterré dans l'église du couvent. J'ai vu sa tombe, j'y ai prié. C'est sous une pierre tombale de marbre, un tout petit peu surélevée par rapport au sol. Même, on s'en aperçoit pas trop que ça peut être son tombeau. Faut faire attention. Et cette dalle porte son portrait sculpté. Il y a deux épitaphes qui font l'éloge de sa sainteté et de son art. Et c'est écrit en vers, Fra Giovanni est appelé vénérable. Il est désigné comme le vrai petit serviteur de Dieu, c'est ça qui est écrit. Comment s'en étonner, hein? Car de l'avis de ses frères, il fut un homme pleinement modeste et religieux. Et en outre, c'est écrit, il s'épanouit en de nombreuses vertus, doux par l'esprit, honnête par la piété. Ce sont des gens qui ont proclamé ça à la suite de sa mort. Et enfin, on a dit aussi de lui qu'il a été un homme d'une remarquable sainteté. Et du reste, le fameux Vasari, qui a recueilli à Florence de nombreux souvenirs de sa vie, tout à fait exemplaire, était convaincu que la grâce qui découlait là, des personnages de ses tableaux, ben, au fond, il n'a représenté d'ailleurs que des saints, mais cette grâce, c'était le fruit d'une harmonie parfaite entre sa vie sainte puis son grand génie créateur. Et c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle cet artiste exceptionnel à une autre semblable, on peut dire, a reçu le nom d'Angélique Frangélico. C'est pour ça, hein? Et cela à juste titre, car si on reprend les mots du pape XII, on peut lire ceci, le pape XII a prononcé cela, « Sa religiosité profonde, son ascèse sereine et austère, nourrie de vertus solides, de contemplation et de prière, a exercé une influence déterminante en donnant à l'expression artistique cette puissance de langage par laquelle il rejoint immédiatement les esprits et, comme on l'a noté plusieurs fois, en transformant son art en prière. » C'est ça, Fra Angelico. C'est ça, absolument ça. Et alors, on peut terminer en disant que sa tombe a été restaurée, il a été enseveli, mais on a ouvert sa tombe pour la première fois et son crâne était très bien conservé, c'est en 1915. 40 ans plus tard, pour célébrer le 5e centenaire de sa mort, il y a eu une exposition de ses œuvres qui est organisée au Vatican, et puis XII l'a inauguré justement, le 20 avril, par ce fameux discours, et puis la cause de béatification s'est mise en marche. En 1958, on a ouvert sa tombe à nouveau, on a publié des études officielles pour sa cause de béatification, il y a une monographie critique extrêmement importante, et sa tombe a été restaurée en 1975, puis on y a replacé les reliques, et il a été béatifié en 1982, le 3 octobre. L'un des meilleurs ouvrages que j'ai lu sur le bienheureux Fra Angelico, chose curieuse, ça va vous surprendre, c'est dans la fameuse collection Les Saints. C'est donc paru il y a bien longtemps, 1919. C'est de Henri Cochin. Mais je vous assure, c'est extrêmement intéressant. C'est passionnant à lire. Oh, c'est un ouvrage un peu considérable, de presque 300 pages. Et c'est tellement bien fait, on peut y lire des choses passionnantes, hein. Il commence d'ailleurs ainsi, « Il est le peintre de la paix, de l'âme. Ainsi, d'un mot, on a défini l'œuvre de Fra Giovanni di Fiesole. Or, le peintre de la paix a vu le jour parmi les guerres et les haines. Il est le peintre de la pureté, de la pauvreté, le peintre de la foi catholique. Or, il a vécu dans le temps où grandissait le luxe et la richesse, où s'épanouissait la volupté, dans la floraison de la Renaissance, dans le renouveau de l'Antiquité païenne. Il est un théologien, un maître de la vie spirituelle. Or, il exprime sa pensée par un art qui emprunte tous ses moyens aux formes réelles de la nature sensible. Ce livre nous dépeint justement tout ce monde dans lequel il a vécu. Et il y a aussi, j'ai trouvé dans ma bibliothèque des choses que j'avais oubliées, c'est ma collection de cahiers de l'art sacré, et dans le numéro 8, vous ouvrez ça dans des bibliothèques religieuses, numéro d'octobre 1946, des articles magnifiques et des reproductions qui laissent beaucoup à désirer. Mais comme il est dit que... On cite ici un ouvrage, à un moment donné, puis on dit presque rien de ce qui nous reste de cette période sur Fra Angelico n'est autre que pur et noble, avec je ne sais quoi de modeste et de juvénile. Jamais n'apparut plus belle l'adorable beauté de Florence, de ses demeures, de ses tours, de ses églises, de ses hommes et de ses femmes, de ses fleurs et de ses champs, de sa large vallée, de ses belles montagnes. Le raffinement et le luxe portent seulement sur la culture de l'esprit et l'amour des arts. On aime ce qui est parfait, ce qui est savant, ce qui est délicat, non encore l'opulence pour elle-même. L'humanisme naissant a des fraîcheurs et des grâces qu'il verra vite flétrir, mais dont le parfum nous enivre encore à travers les âges. S'il y eut quelque illusion, elle fut générale et put charmer même les âmes les plus religieuses. Et c'est ce qu'a fait Fra Angelico. Et quand le pape Jean-Paul II l'a béatifié, il a dit, il est certain que Fra Angelico, en servant l'art, par les dons exceptionnels de sa nature, a apporté, et apporte encore aujourd'hui, une immense utilité spirituelle et pastorale au peuple chrétien pour lui faciliter sa marche vers Dieu. Tel est le sens de l'art sacré, selon Vatican II, qui a déclaré dans la Constitution sur la liturgie, « Parmi les plus nobles activités de l'esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout l'art religieux et ce qui en est le sommet, l'art sacré. » Attention, il y a tellement d'arts sacrés effroyables qui trahissent les réalités spirituelles. Je ne parle pas des arts, de l'art archimoderne où l'on déforme tout, non, mais je parle de la mièvrerie, de la sensiblerie niaise. C'est terrible. Et le pape ajoute, par nature, les beaux-arts visent à exprimer de quelque façon, dans les œuvres humaines, la beauté infinie de Dieu. Ils se consacrent d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire, qui n'ont pas d'autre propos que de contribuer le plus possible à tourner les âmes humaines vers Dieu. Et Fra Giovanni, Fra Angelico, cet homme éminent par la vie spirituelle et par l'art, dit Jean-Paul II, nous a toujours attirés au plus haut point. C'est pourquoi nous pensons que le moment est venu de le placer dans une lumière particulière au sein de l'Église de Dieu, à laquelle il ne cesse de parler aujourd'hui encore à travers son art. En conséquence, après avoir examiné l'opinion de certains de nos prédécesseurs sur la sainteté de vie de Fra Giovanni da Fiesole, appelé Fra Angelico, sainteté sur laquelle s'accordent d'autres personnes remarquables sur le plan de la religion et de l'art, comme le prouve la grande masse de documents rassemblés entre 1960 et 1963 par la section historique de la Sacrée Congrégation des Rites. De même, à la suite de demandes répétées adressées au Saint-Siège par des cardinaux, des évêques, des religieux et en tout premier lieu l'ordre des frères prêcheurs, sans oublier de nombreux laïcs, pendant à ce que nous accordions les honneurs liturgiques à Fra Giovanni da Fiesole, nous, en toute connaissance de cause, compte tenu des imminents mérites dans l'Église de ce Fra Giovanni da Fiesole, uniquement guidé par le bien des âmes, nous avons décidé, par motu proprio, par son propre mouvement, de sa pleine autorité, et en vertu de notre autorité apostolique, justement, il le dit, de concéder, en signe de grâce spéciale, que sa fête soit célébrée avec le titre de bienheureux, aussi bien dans la liturgie des heures que dans l'Eucharistie, comme mémoire obligatoire dans la basilique de Santa Maria sopra Minerva, où repose son corps, à Rome, et comme mémoire facultative dans l'ordre tout entier des frères prêcheurs, il s'est été donné le 3 octobre 1982. Il faisait 4 ans qu'il était pape. Alors, un peu plus d'un an plus tard, dans l'après-midi du samedi 18 février 1984, le Saint-Père s'est rendu justement dans la basilique Sainte-Marie de la Minerve, ce grand couvent dominicain, où j'ai rencontré des dominicains merveilleux. Il y a des dominicains qui se promènent un peu dans l'église pour recevoir les gens, dans leurs beaux costumes de dominicains. On peut se confesser aussi. Ils sont très accueillants et très sympathiques. C'est au centre de Rome, pour la célébration solennelle du jubilé des artistes. C'est pour ça que le pape est allé là le 18 février 1984. Et c'est dans cette basilique, donc, que repose, comme je vous ai dit déjà, le corps de ce grand peintre dominicain. Et le pape y a célébré la première messe votive en son honneur. Et au cours de la messe à laquelle assistaient de très nombreux artistes, le pape a proclamé Frangelico patron des artistes. Après la proclamation de l'Évangile, il a prononcé une très belle homélie. Je vous en donne quelques extraits. Dans cette rencontre liturgique, nous désirons honorer, dit le pape, un homme auquel a été attribué le nom d'angélique, et sa vie a été un extraordinaire chant à Dieu, un chant en présence des anges. Par toute sa vie, il a chanté la gloire de Dieu, qu'il portait comme un trésor au plus profond de son cœur, et qu'il exprimait dans les œuvres d'art. Frangelico est resté dans le souvenir de l'Église et de l'histoire de la culture comme un extraordinaire moine artiste. Fils spirituel de Saint Dominique, il exprimait par le pinceau des grands mystères divins, comme Saint Thomas d'Aquin l'a énoncé, lui, par le langage théologique. Dans ses œuvres, les couleurs et les formes proclament une action de grâce toute particulière à l'égard de Dieu. Le charme et la grandeur mystique exceptionnelle de la peinture de Frangelico nous oblige à nous arrêter, enchanté en présence d'un génie. Regarder le bienheureux Angelico est en même temps regarder un modèle de vie. Chez lui, l'art se révèle comme un cheminement qui peut conduire à la perfection chrétienne. Il a été un religieux exemplaire et un grand artiste. On a tous les témoignages des gens de l'époque, je vous en ai cité tout à l'heure. C'était un saint, vraiment. Surnommé Angelico, dit le pape, pour sa bonté de cœur et pour la beauté de ses peintures, eh bien, le frère Giovanni de Fiesole a été un prêtre artiste qui a su traduire en couleurs l'éloquence de la parole de Dieu. Comme Bach le fera pour la musique, demain je consacre mon émission à Jean-Sébastien Bach. S'il a puisé dans sa famille, dit le pape, une foi solide et vigoureuse, il a obtenu de l'ordre des Dominicains dans lequel il est entré en 1420 une connaissance approfondie de la foi et un stimulant pour annoncer les vérités de l'Évangile par le ministère, je dirais, sacerdotal de la peinture. Et en se consacrant à Dieu, le bienheureux Angelico a réussi à être davantage un homme, non seulement avec les autres, mais pour les autres. Et ses œuvres sont un message permanent de christianisme vivant et en même temps un message hautement humain fondé sur la force transcendante de la religion en vertu de laquelle tout homme qui entre en contact avec Dieu et ses mystères sera semblable à lui dans la sainteté, dans la beauté, dans la béatitude, c'est-à-dire un homme selon les projets originels de son Créateur. Et Frangelico, par sa vie, a démontré qu'il y a un lien organique et constitutif qui existe entre le christianisme et la culture, entre l'homme et l'Évangile. Et en lui, la foi est devenue culture, et la culture est devenue foi vécue. Dans un ouvrage que je retraçais dans ma bibliothèque, « Dialogue avec le visible » de René Wigg, publié chez Flammarion il y a bien longtemps, il y a, mon Dieu, 40 ans, mais un livre très réputé, « Dialogue avec le visible » de René Wigg, il écrit à un moment donné, « Il est des hommes pour qui ce monde physique est si transparent qu'il n'est pas besoin d'y faire une brèche, de le crever. La lumière surnaturelle est en eux. Elle est dans leur cœur. Ils la portent sur les choses en les regardant. Ceux-là sont en paix, car leur inconscient ne connaît que les zones élevées où tout rayonne. La lie, vous savez, le fond des rivières, des fleuves. La lie repose sur le fond. La lutte n'a même plus de sens. Quel combat livrerait-il? Aussi n'essaie-t-il pas d'échapper au réel? Ils n'y trouvent que ce qu'ils y mettent, une clarté. Ils se nomment Frangelico, ou Vermeer, ou Corot, les dupes, les croix des réalistes. Frangelico passe si aisément de la douceur des paysages de Fiesole à la suavité des prairies éternelles, où les fleurs n'ont pas à s'incliner sous la ronde impondérable des anges, mais on ne peut les étudier tous. Mais ces tableaux où il peint des fleurs dans le ciel, il y a des gens qui disent que c'est pas tout à fait lui qui les a peints, ce serait de ses aides. Ah, les critiques ne s'entendent pas tous. Mais revenons à ce que disait le pape quand il a célébré cette première messe en l'honneur de Frangelico le 18 février 1984. Il disait que Frangelico a été un religieux qui a su transmettre par l'art les valeurs qui sont à la base du mode de vivre chrétien. Il a été un prophète de l'image sacrée. Il a su atteindre les sommets de l'art en s'inspirant des mystères de la foi. En lui, l'art devient prière. En lui, l'art devient prière, dit le pape Jean-Paul II. Et en béatifiant donc en 1982 et en célébrant aujourd'hui Frangelico, frère Jean de Fiesole, j'ai voulu, dit le pape, reconnaître la perfection chrétienne du peintre suprême, promoteur efficace et sincère de la spiritualité artistique. Mais j'ai voulu également témoigner l'intérêt profond de l'Église envers le progrès de la culture et de l'art, et du dialogue fécond entre eux. J'ose en profiter pour saluer le père Daniel Leblond, un jésuite qui travaille dans ce centre d'art sous l'Église du Jésus et qui se dévoue corps et âme à établir certains rapports entre la culture et l'art aujourd'hui, ce qui n'est pas facile. Dans cette basilique romaine de Sainte-Marie de la Minerve, qui conserve la tombe du bienheureux Angelico, dit le pape, et qui s'érige près du couvent où il a attendu la fin de ses jours, le 18 février 1455, vous êtes réunis ce soir, vous, amis artistes, auxquels Frangelico est particulièrement cher. Vous, professionnels de l'art, je vous salue. À vous, architectes à qui... Je m'adresse à vous, architectes, à qui est instinctif le sens de la proportion et le goût de l'espace. À vous, sculpteurs et peintres, qui vous êtes réunis avec les artistes du chant, de la musique, de la danse et du spectacle. Comme pour vous intégrer dans un concert de valeurs humaines et spirituelles à offrir à la société d'aujourd'hui. À vous, professeurs d'académie et de facultés universitaires, dirigeants d'instituts d'art international, directeurs de musées, pinacothèques, galeries. En un mot, à vous tous qui appartenez à ce monde culturel au sein duquel naissent et se répandent les phénomènes artistiques. Je dis à tous, amis de l'art véritable, vous êtes aussi nos amis. En redisant cette phrase des pères du Concile, ajoute le pape, dans le message aux artistes, car les pères du Concile avaient fait un message aux artistes, « Eh bien, ma pensée, dit Jean-Paul II, remplie d'appréciation et d'admiration, s'élargit à tout esprit humain pris du beau, et au monde entier des artistes, non seulement de Rome et d'Italie, mais de tous les continents. » Il ajoutait plus tard, « En cette année sainte, les personnes et aussi les différents groupes et milieux se demandent quel rapport existe-t-il entre l'œuvre de la rédemption du Christ et notre vie, notre vocation, notre profession. Eh bien, les artistes s'interrogent ainsi en se recueillant autour de la figure de Frangelico. Et ils ont raison de le faire. En effet, toute l'œuvre de cet artiste de Dieu tire son développement de la profondeur du mystère de la rédemption, de sa richesse divino-humaine. » Pour le bienheureux Angelico, la parole de Dieu était aussi bien pour sa vie que pour son œuvre créatrice, source d'inspiration, à la lumière de laquelle il créait ses propres œuvres, et en même temps il se créait surtout lui-même. en développant ses talents naturels exceptionnels et en correspondant à la grâce divine. Je pourrais vous lire presque tout ce que le pape a dit ce jour-là, c'est d'une très grande beauté. Mais je reviens à ce grand chef-d'œuvre de San Marco. C'est tellement phénoménal que dans ce fameux livre dont je vous ai parlé au début de l'émission, ce livre de le bienheureux Fra Giovanni Angelico de Fiesole, dans la collection Les Saints, paru en 1919, il écrit à un moment donné, et c'est le sentiment qu'on a quand on arrive au couvent de San Marco, qui sont grands chefs-d'œuvre à mon avis, en arrivant seulement à l'étage des cellules, on a la preuve du grand génie. L'aérienne annonciation, la fameuse annonciation, là, qui nous attend en haut de l'escalier, est encadrée de colonnes corinthiennes, parfaites, et de voûtes, qui continuent pour notre œil l'impression des berceaux de l'escalier. C'est un pur dessin de Michelozzo. Michelozzo, c'est l'architecte. Un architecte qui a su faire de ce couvent un couvent à la fois noble et pauvre, pur et grandiose. Et l'auteur ici ajoute, mais n'appartient-il pas à l'Angelico aussi, le dessin de ce couvent? Il est visible qu'ils ont, tous les deux, Michelozzo et Angelico, non seulement pensé, mais travaillé, mais dessiné ensemble. J'en donne un autre exemple. Les cellules de San Marco, vous savez, toutes les cellules des moines sont peintes. Il y a des fresques là-dedans, pas sur tous les murs, mais une fresque par cellule. C'est de toute beauté, c'est extraordinaire. Les cellules de San Marco sont nues et blanchies à la chaux, mais voûtées élégamment avec des arêtes vives, dont la retombée est parfois reçue sur des culots de pierre. Cette disposition, qui se retrouve aussi à Santa Croce, dans la chapelle de Combe de Médicis, est bien particulière à Michelozzo. Or, Fra Giovanni a plus d'une fois reproduit dans ses peintures ces mêmes cellules de San Marco, telles que Michelozzo venait de les bâtir ou les bâtissait encore, et on ne pourra jamais deviner à quel point furent portées l'union intime et l'influence de ces deux grands hommes. Et le travail qu'ils ont fait tous les deux est fantastique, fantastique. Pour se dégager de tout scrupule en observant toutes ces merveilleuses choses, on peut dire que Fra Angelico était atteint d'un génie particulier. Et ainsi, le cardinal Luigi Ciappi, un dominicain, a expliqué pourquoi Jean-Paul II a proclamé bienheureux Jean de Fiesole di Fra Angelico comme patron des artistes et comme bienheureux. Il dit, en date du 1er octobre 1983, c'est là que ça a été annoncé, paraissait sur les Acta Apostolici Sedis, la lettre apostolique motu proprio, là, par laquelle le souverain pontife, Jean-Paul II, a accordé au frère Jean de Fiesole, Angelico, d'être l'objet d'un culte liturgique avec le titre de bienheureux, au bénéfice de tout l'ordre des frères prêcheurs. Il semble donc bon, dit le cardinal Luigi Ciappi, il semble donc bon, également au titre de notre vive reconnaissance envers le vicaire du Christ, de faire un commentaire historique et doctrinal. Alors il s'explique là-dessus, puis il dit à un moment donné que l'Église fondée par Jésus s'est conformée à la loi de l'Ancien et du Nouveau Testament, également pour les témoins exigés dans le procès de béatification et de canonisation, et il n'a pas fait ça à la légère, quoi. Puis il parle des premiers témoins des vertus. Et c'est très intéressant parce qu'il dit que le premier témoin oculaire des vertus imminentes du Fra Angelico, c'est le pape Eugène IV, qui parle surtout de sa piété, de son observance de la règle, le peu de cas qu'il faisait de lui-même et son effacement. Il parle aussi, le pape Jean-Paul II, rapporte le cardinal là, dominicain, il parle du pape Nicolas V qui a succédé à Eugène IV, qui fut lui aussi frappé surtout par les vertus de Fra Angelico, et eut de l'estime, c'est le texte ancien, eut de l'estime pour cet homme si célèbre, et le vénéra pour la pureté de sa vie, et pour l'excellence de ses mœurs. C'est un témoin auriculaire et digne de foi qui dit ça. Puis il y a toutes sortes d'autres témoignages, la pierre tombale où il est dit qu'il est vénérable et vrai serviteur de Dieu. On dit aussi Il était un homme d'une modestie et d'une vie religieuse parfaite, un homme intelligent et docte. Et puis, il y a le confrère de Frangelico, frère Dominique de Corella, du même âge que lui d'ailleurs, et qui était un grand orateur. Mais il a témoigné que frère Jean produisit les fruits de nombreuses vertus, qu'il fut d'un caractère doux et d'un grand esprit religieux. Et c'est ce père Corella, provincial de la province romaine, qui le premier a appelé le frère Jean de Fiesole, le peintre angélique. C'est lui qui lui a donné le nom d'Angelico, titre qui par la suite lui a été reconnu universellement, et quand on cherche dans un dictionnaire, on cherche Angelico et on trouve son nom. Ça vient donc du père Corella, qui était son contemporain. Avant encore d'être appelé le peintre angélique, là, le frère Giovanni avait déjà été reconnu comme étant un bon et célèbre maître en peinture, le plus célèbre de tous les peintres d'Italie, par les membres du conseil de la fabrique de la cathédrale d'Orvieto qui s'y connaissaient, qui pour cette raison, au cours de leur délibération de 1447, lui avaient confié de préférence à tous les autres artistes peintres le travail de décorer la chapelle de Saint-Brice. Et puis, il y a des témoins qui disent qu'il fut un homme remarquable par sa sainteté. C'est le grand témoin, Léandre Albertis, qui est digne de confiance. Et on rapporte aussi, dans la chronique des maîtres généraux de l'ordre des Dominicains, à l'année 1455, donc l'année de sa mort, il y a une anecdote de sa vie introduit par les mots suivants. « Cet homme bienheureux fut d'une religion si grande et fut si observant que bien que logeant dans le palais de Nicolas V, il observait toutes les règles de sa religion. Le pape Nicolas, en raison de la vénération qu'il avait pour sa sainteté et ses vertus, etc., etc. » On a là des témoignages auriculaires précieux, n'est-ce pas, qui sont antérieurs à celui d'Alberti et de Vasari, qui remonte un peu plus tard. Mais Fra Angelico a vraiment été non seulement un génie sur le plan de la peinture, mais un saint. Et c'est très important de s'en rendre compte et d'approfondir cette question, car souvent on ne pense qu'à la beauté et à la grandeur de son art, mais pas à ce qui est encore peut-être plus important, la beauté et la grandeur de son âme. Une des dernières paroles de Fra Angelico est la suivante. « Que l'on ne me rende pas gloire parce que j'ai été comme un nouvel Appel. » Vous savez, Appel, c'est ce peintre de l'Antiquité grecque qui est un peu le patron dans la mythologie des peintres. Un nouvel Appel, A-P-E-2-L-E. Bon, je recommence. « Que l'on ne me rende pas gloire parce que j'ai été comme un nouvel appel, mais parce que, ô Christ, je donnais à tes pauvres tout ce que je gagnais. Car il est des œuvres qui vivent sur la terre et d'autres qui vivent dans le ciel. Je m'appelle Giovanni. La ville qui m'a porté est la fleur de l'Étrurie, hein, Florence, la fleur de l'Étrurie. » Ainsi, c'est la fin de ce livre dont je vous ai parlé plusieurs fois, là, ce livre de Henri Cochin, C-O-C-H-I-N. Il écrit ainsi, jour par jour et jusqu'à la mort, revient sur Fra Angelico cette bénédiction et cette louange. Il a aimé les pauvres. C'est ça la grande qualité de ce grand peintre, qui, à mon avis, dépasse son talent. Aimer les pauvres est encore 100 milliards de fois plus noble que les plus grandes œuvres d'art. Il était ainsi fidèle, dit Cochin, à la tradition des saints, dont il a célébré les louanges, à celle aussi de son ordre vénérable. Dans la plupart des délicieux récits qui nous sont restés de la vie de Sainte Catherine de Sienne, passe au fond du tableau des pauvres. L'aumône était plus qu'une des pratiques recommandées aux frères prêcheurs. Elle était le fond de sa vie contemplative. Saint Thomas d'Aquin a écrit cette profonde et mémorable parole. « L'aumône est la préparation à l'oraison. » C'est le temps du carême, je vous le rappelle, c'est le temps encore où on insiste davantage sur l'aumône. Henri Cochin continue en disant, « Or pour Fra Angelico, La peinture était une forme particulière de l'oraison. Fra Angelico est mort. Il est devant nous, sur sa pierre tombale, debout, les mains croisées sur la ceinture. Il est vivant. Il ne dort même pas. Seulement ses paupières sont baissées. Il va ouvrir les yeux, il va parler, marcher, sans aller à son œuvre commencée. Mais non, il vit. Mais c'est par la flamme de la vie de l'âme. Regardez le pli de cette bouche si fine. Quelle est cette expression sinon celle de la gaieté sereine des saints? Fra Giovanni sourit. Après les peines, les travaux, les dangers, les angoisses de la vie, il sourit. Il sourit jusque dans la mort. Et comme le disait Sainte Catherine de Sienne, qui repose à quelques pas de là, bien oui, ça fait deux grands tombeaux près l'un de l'autre, elle dit, « Si vous restez toujours dans la sainte foi, jamais en votre cœur ne pourra tomber la tristesse. » Ce serait bien pour terminer l'émission de l'après-midi sur la joie. Si vous restez toujours dans la sainte foi, jamais en votre cœur ne pourra tomber la tristesse. Et le disciple de Sainte Catherine de Sienne nous laisse jusqu'en la pierre de son tombeau l'image vivante de l'impérissable joie, termine Henri Cochin dans son livre. Une dernière fois, il nous donne la paix. Le pape Pie XII disait au sujet de Fra Angelico, et c'est à juste titre que fut donné à frère Jean le titre d'Angelico, puisque sa religiosité profonde, son ascèse sereine et austère, nourrie de solides vertus, de contemplation et de prière, a exercé une influence déterminante sur son expression artistique en lui donnant un pouvoir d'expression capable de toucher immédiatement les esprits, et comme on l'a souvent fait remarquer, transformant son art en prière. Lui qui répétait souvent que celui qui fait les choses du Christ doit demeurer sans cesse avec le Christ. Et oui, c'est Fra Angelico qui disait ça. Celui qui fait les choses du Christ doit demeurer sans cesse avec le Christ. On ne peut pas prêcher Jésus-Christ et le soir perdre son temps dans des clubs ou dans des bêtises. C'est tragique. Il est beau de voir que les juges les plus autorités des vertus du frère Jean de Fiesole, Fra Angelico, Pie XII et Jean-Paul II s'accordent pour reconnaître que le témoignage principal presque autobiographique de ces vertus éminentes, témoignage si transparent, est donné par ses œuvres d'art. C'est dans la première aux Corinthiens, « Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme? Seul l'esprit de l'homme le sait, lui qui est dans l'homme. » L'esprit qui sait. Les nouvelles normes pour les causes des saints qui ont été établies en 1983 apparaissent bien conformes à cette pensée du Christ. Tout bon âme produit de bons fruits, c'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Alors, ces normes accordent une priorité aux écrits des serviteurs de Dieu sur les documents qui leur sont extérieurs, les actes des procès, les documents annexes, afin de connaître leur personnalité. Ceci dit, on ne peut que souscrire pleinement à la constatation suivante du pape. Il est donc certain que frère Jean, Fra Angelico, en utilisant son art, avec de rares dons naturels, a été et est encore aujourd'hui d'une immense utilité spirituelle et pastorale pour le peuple de Dieu, car il lui permet de suivre plus facilement la route qui mène à Dieu. Et enfin, après avoir confirmé avec le Concile Vatican II le primat de l'art sacré sur toutes les activités du génie humain, parce qu'il reflète la beauté infinie de Dieu, le pape nous révèle sa propre expérience. C'est pourquoi, c'est écrit par le pape, on comprend bien pourquoi le frère Giovanni, ou Fra Angelico, qui fut un homme absolument extraordinaire par sa vie spirituelle et par son art, nous est toujours tellement fasciné. Et fort de sa conviction intime, Jean-Paul II conclut aussitôt après en disant, C'est pourquoi nous pensons que le moment soit venu de placer dans une lumière spéciale, dans l'Église de Dieu, celui qui ne cesse pas aujourd'hui encore de l'émerveiller par son art. Bienheureux Fra Angelico, éclaire-nous dans notre recherche de la beauté de l'art sacré. Fais que dans nos églises nous trouvions des œuvres qui soient dignes du monde invisible, dignes de la représentation de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa très sainte mère, dignes par la beauté et non par la mièvrerie, dignes par la grandeur et non pas par la sensiblerie, dignes représentant de ce qui est valable, de ce qui est grand, de ce qui est beau, de ce qui est digne de toute notre admiration, et pour ce qui est de Jésus-Christ, digne de notre adoration. Amen.